ce soir, nous recevons Elisabeth de Fontenay. Elisabeth de Fontenay est née en 1934. Elle est agrégée de philosophie. Elle a d'abord été professeure de lycée, puis maître de conférence à l'Université de Paris 1 à partir de 1967. Actuellement, elle est maître de conférence honoraire à l'Université de Paris 1. Elle est spécialiste notamment du XVIIIe siècle et elle a reçu un prix, le prix des critiques pour son ouvrage Diderot ou le matérialisme enchanté qui est paru chez Grasset en 1984 et le prix, elle l'a reçu également en 1984. Cela nous amène aux publications. Donc, Elisabeth de Fontenay est l'auteur de nombreux ouvrages, enfin des ouvrages suivants, que je vais donner intégralement la liste. Les figures juives de Marx, paru aux éditions Galilée en 1975. Diderot, le matérialisme enchanté que j'ai cité, qui est paru d'abord chez Grasset en 1984 et qui a été republié en livre de poche collection Biblio. Le silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité, paru chez Fayard en 1998. Elle a également adapté au théâtre, et ça c'est très intéressant, Diderot à corps perdu, mise en scène de Jean-Louis Barrault au Théâtre d'Orsay, Michelet ou le don des larmes, mise en scène à la Comédie française, et Madame de la Carlière, d'après Diderot. Elisabeth de Fontenay, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat avec le public. Je vous remercie.
Merci à vous, cher monsieur. J'ai cru entendre que vous alliez faire un lapsus. Nous recueillons Elisabeth de Fontenay. J'ai trouvé que c'était formidable, très topique, parce que quand on s'apprête à parler des animaux, évoqués par ce lapsus, la cruauté de ceux qui abandonnent les bêtes et la pitié de ceux qui les recueillent, c'était très bien parti. Donc merci aussi pour ce lapsus, que vous n'avez pas vraiment fait du reste. Je voudrais mettre cette conférence du lundi 4 décembre 2000 sous la surveillance d'un texte du prix Nobel 1981, Elias Canetti. Ce texte est extrait de l'ouvrage intitulé « Le territoire de l'homme ». Et je vous le lis. « Animaux, ô chers aimés, ô cruels, ô mourants, en train de vous débattre, engloutis, digérés et assimilés, prédateurs et pourrissants dans votre sang. En fuite, rassemblés, solitaires, entrevus, débusqués, traqués, rompus. Incréés, privés de Dieu, abandonnés dans une vie trompeuse, ainsi que des enfants trouvés. Si l'université de tous les savoirs peut placer la cruauté envers les animaux à l'ordre du jour de ses travaux, c'est, semble-t-il, que ce sujet a réussi à s'imposer comme une question décisive. Aussi déconcertant que cela puisse paraître, à la fin d'un siècle de défiguration et d'extermination massive d'êtres humains par des êtres humains, certaines conduites et pratiques vis-à-vis de vivants non humains nous interpellent éthiquement et politiquement. Un tel sujet, pour être traité à fond, requerrait que se croisent un grand nombre de registres d'analyse économiques, psychologiques, sociologiques et surtout juridiques. Comme c'est à une philosophe qu'on a demandé sa contribution, vous comprendrez que c'est d'abord en retraçant par quelques mots portant sur l'histoire de la philosophie la trajectoire de deux thématiques corrélatives, celle de la cruauté et celle de la pitié, que je tenterai de comprendre comment des penseurs se sont représentés et ont réfléchi les tourments infligés par l'homme aux animaux. Mais, et c'est un premier point, il convient d'abord de rechercher ce que ce mot « cruauté » recèle dans son origine latine. La crudelitas latine ne désigne la cruauté que pour autant qu'elle se confond avec le cruor, le sang répandu en flaques ou coagulé, la chair meurtrie. Le sang noble, le sang versé, se dit sanguis et non cruor. La formule sacramentelle de la messe est hic est enim calix sanguinis mei. Remarque moins incongrue qu'il n'y paraît, puisque ce sang divin ne fut aucunement versé pour le rachat des animaux et que c'est là justement un trait crucial de notre culture occidentale chrétienne. À quoi il faudrait ajouter que, dans notre prononciation, ce CRU de la crux, la croix, l'instrument de torture, tend à se confondre phonétiquement et fantasmatiquement avec le CRU de la crudelitas, de la cruauté. Ceci étant dit, il est bien entendu qu'on peut se conduire avec une extrême cruauté, même physique, sans verser le sang. Si nous examinons maintenant les synonymes tout en restant attentifs à l'étymologie, nous découvrons que la cruauté consiste à se conduire de manière féroce, c'est-à-dire comme une bête sauvage, ou de manière brutale, comme ce qu'on nommait en latin philosophique les animalia bruta, ou bien sauvagement, comme un animal non domestique, ou bien en barbare, c'est-à-dire en homme non civilisé, ou encore avec inhumanité, car la langue nous force à dire qu'un homme n'est pas digne de son appartenance au genre humain quand il manifeste de la cruauté. Et si l'on commet souvent l'anthropomorphisme qui consiste à déclarer que la nature est cruelle, n'est-ce pas pour bien marquer la différence humaine ? Deuxièmement, c'est donc précisément sur la cruauté envers les animaux que nous sommes invités à réfléchir. Que, et peut-être faut-il dire qui, laisse-t-on souffrir ou fait-on souffrir en l'occurrence ? C'est toujours un vivant, assurément, car on n'est jamais cruel envers une chose. Mais alors la question se pose de savoir si la cruauté envers les animaux est un cas particulier de la cruauté en général ou si elle comporte quelques traits spécifiques. Tout dépend, on l'admettra, de l'établissement d'une différence, reconnue comme fondamentale ou non, entre les hommes et les bêtes. Cette interminable question préalable, je ne puis pas l'aborder ici, et il faudra nous contenter de mentionner une distinction entre deux approches que la tradition philosophique propose, puis de trancher dans le vif de la douleur et de l'angoisse infligée aux animaux. On peut, et c'est la première des deux thèses en présence, décider que la cruauté envers les animaux revêt une spécificité, doit être traitée à part, à tel point que la bienveillance envers les hommes et celle qu'on voue aux bêtes varieraient en raison inverse l'une de l'autre. C'est ainsi qu'un philosophe, Luc Ferry, qui critique avec virulence les excès de la compassion envers les bêtes, croit devoir montrer comment la législation nazie, zoophile, et qu'il considère à tort du reste comme une exception en son temps, cette législation nazie, comme elle a fait bon ménage avec les lois raciales. Pour mémoire, nous rappelons à ce sujet que l'interdiction par Goebbels du gavage des oies. Mais si l'on tenait à accréditer cette thèse de la caractéristique anti-humaniste de l'attention portée au sort des bêtes, on pourrait, remontant au XIXe siècle, constater que le seul métaphysicien de l'histoire moderne à avoir pris philosophiquement le parti des animaux, Schopenhauer, s'est par ailleurs laissé aller à une misanthropie, une misogynie et un antisémitisme qui nous semblent aujourd'hui déplorables. De même, notre contemporain, le théoricien de l'écologie profonde qu'est le philosophe australien-américain Peter Singer, tend, à travers une rhétorique argumentative fort scabreuse, tend à mettre sur le même plan, sur un plan de stricte équivalence, les handicapés mentaux et les animaux sociables. Au cas où il faudrait faire un choix entre un chien et un enfant anencéphale, il demande pourquoi on ne déciderait pas plutôt de garder le chien. À l'inverse, c'est l'autre thèse, et c'est celle que je vous proposerai d'accepter. On a pu tenir la cruauté envers les bêtes pour un cas particulier de cruauté et considérer qu'empêcher ou décourager des pratiques inhumaines contribuait à un apprentissage de la philanthropie. C'est ainsi que des auteurs grecs comme Théophraste, Porphyre, Plutarque recommandaient qu'on mît fin aux sacrifices et à la nourriture carnée. C'est ainsi qu'il tenait la douceur envers les animaux pour un exercice indispensable à l'humanisation des enfants, des adolescents, voire des peuples. Reprenant le même thème, mais avec une visée anthropocentriste. Kant, qui considère les animaux domestiques comme des êtres auxquels on ne doit rien, puisqu'aussi bien on les élève comme on cultive des pommes de terre, Kant recommande cependant qu'on ne soit pas inutilement cruel envers eux. Ce critère d'utilité, on le retrouvera par la suite, quand la cruauté dite sans raison sera sanctionnée. La loi Gramont, qui est une loi de protection, la première loi de protection des animaux, votée en 1850, se fonde en quelque sorte sur une telle pédagogie. Le spectacle quotidien de la violence qu'a si brillamment relaté l'historien Maurice Agulon dans son article « Le sang des bêtes », ce spectacle quotidien de la violence en ville, abattage et écarissage, mauvais traitements infligés aux chevaux par les charretiers, allait à l'encontre du souci de moraliser le peuple. Aussi ne tombaient sous le coup de la loi que les mauvais traitements infligés en public. Il était inutile de montrer à tous la brutalité utile. Vous l'aurez compris, c'est la position de Plutarque, elle sera aussi celle de Montaigne, qui me semble la plus juste, aux deux sens du mot « justesse » et « justice ». D'abord à cause de cette incontestable pédagogie qui en passe par l'apprentissage de la douceur envers les bêtes. Ensuite, parce que ceux qui soupçonnent systématiquement de racisme les amis des animaux prouvent une certaine inculture et manifeste cette froideur héritière de la tradition rationaliste sur laquelle il nous faut maintenant méditer. Troisièmement, les deux courants de la philosophie occidentale, celui du rationalisme d'une part, celui du scepticisme, de l'empirisme, du matérialisme d'autre part, correspondent à deux conceptions de la sensibilité qui elles-mêmes concordent avec deux évaluations divergentes quant à la question des animaux. Le rationalisme, d'abord. Son paradigme doit être trouvé dans ce que les stoïciens ont nommé l'apatheia et l'ataraxie, ce modèle éthique qui impose qu'on atteigne un état dépourvu du moindre trouble, une superbe insensibilité à ce qui peut survenir de douloureux à soi-même et aux autres, et particulièrement, bien entendu, à ces vivants non rationnels que sont les animaux. Si Kant, comme nous l'avons vu, entend qu'on traite les animaux comme des choses, c'est sans doute en vertu d'un idéal analogue, celui de l'autonomie de la volonté, propre de l'animal raisonnable, de l'être humain, et en vertu d'un rigorisme qui expulse la pitié, donc la sensibilité de la moralité. Et, plutôt que d'évoquer un Descartes trop ressassé, trop dénigré, et sa méthode qui privant les bêtes d'âme en fait de simples mécanismes, il conviendrait de s'arrêter à Spinoza. Ce n'est certes pas sans motif que Schopenhauer l'a érigé en théoricien implacable de l'us et abus des animaux. Je cite Spinoza dans l'Éthique, « À part les hommes, nous ne connaissons pas dans la nature d'êtres singuliers qui puissent nous donner du contentement et que nous puissions, avec lesquels nous puissions nous lier d'amitié ou de quelque autre genre de relation. Et par suite, tout ce qu'il y a dans la nature de choses en dehors des hommes, la règle de notre utilité ne commande pas de les conserver, mais elle nous enseigne, en vue d'usages divers, à le conserver, à le détruire, ou à l'adapter à notre usage, de quelque façon que ce soit. Il faut ajouter que pour Spinoza, la pitié ne relevant pas de l'usage de la raison est mauvaise, inutile, et qu'elle fait partie des passions tristes devant être proscrites. Le rationalisme, dans toute son histoire, a manifesté, comme l'écrivent en 1940 deux philosophes de l'école de Francfort, Adorno et Horkheimer, le rationalisme manifeste une intelligence purement instrumentale, disons, privilégie une intelligence purement instrumentale, et manifeste cette froideur bourgeoise caractérisée par l'appropriation effrénée, le calcul au service de l'exclusive conservation de soi, l'arrogance d'une subjectivité qui entend disposer à sa guise de tous les vivants non humains. Je cite Horkheimer et Adorno, « Les êtres rationnels, écrivent-ils, considèrent la sollicitude pour l'animal privé de raison comme une vaine occupation. La civilisation occidentale a laissé ce soin aux femmes. » Descartes, déjà, et plus généralement les scientifiques, accusent ceux qui éprouvent de la pitié de n'avoir souci que de leur propre sensibilité et d'ignorer si réellement les animaux souffrent. À quoi on ne peut que répondre ceci, la compassion envers les vivants doit-elle attendre des résultats expérimentaux pour se manifester? Quatrièmement, du côté opposé, avec ces mauvais sujets de la philosophie que sont les sceptiques, les empiristes et les matérialistes français du XVIIIe siècle, on trouve une exigence de pitié et même de gentillesse envers les bêtes, une contestation de la sacro-sainte spécificité de l'homme, une expérience de la proximité entre les sensibilités, de la communauté de vie sur la terre. On trouve l'hypothèse d'une différence d'intelligence d'ordre quantitatif et non qualitatif, et une révolte contre l'injustice qui, de façon immémoriale, est faite aux animaux. Outre Théophraste et Plutarque, déjà mentionné, je redirai le nom de Montaigne, auquel j'ajouterai, sans pouvoir développer ce point, auquel j'ajouterai les noms de Hume et de Bentham. Voltaire, qui n'appartient pas à ces courants subversifs, mais qui a lu certains des écrits clandestins de l'extraordinaire curé matérialiste Méliès, a lui aussi dénoncé ardemment les cruautés commises sur les bêtes. Et s'il s'engage à fond dans cette cause, c'est qu'elle n'est pas à ses yeux sans rapport avec les procès iniques pour lesquels il a demandé réparation. Défendre les animaux contre les mauvais traitements, c'est s'opposer une fois de plus, et de la manière peut-être la plus incisive, à ce catholicisme qu'il entreprend de miner. Car il faut souligner ici le secours inespéré que l'Église a souvent apporté à un rationaliste que par ailleurs, un rationalisme que par ailleurs elle combattait. L'historien Éric Baratet a écrit un livre intitulé « L'Église et l'animal » et dans lequel il retrace les alternances de la doctrine chrétienne à ce sujet. Mais si l'on s'en tient à l'histoire de la philosophie, on doit reconnaître que de Saint-Augustin à Malebranche et jusqu'à ce pape qui ne voulait pas, au milieu du XIXe siècle, entendre parler de société protectrice des animaux, la douleur animale fut, pour l'orthodoxie catholique, un objet de dérision. Un certain abbé Trublet a raconté la visite que Fontenelle fit un jour à Malebranche. Malebranche, chez qui le cartésianisme enchérissait sur le catholicisme. Voilà, voici le récit. Une grosse chienne de la maison, qui était pleine, entra dans la salle où il se promenait, vint caresser le père Malebranche et se rouler à ses pieds. Après quelques mouvements inutiles pour la chasser, le philosophe lui donna un coup de pied qui fit jeter à la chienne un cri de douleur et à M. de Fontenelle un cri de compassion. « Et quoi ?» lui dit froidement le père Nicolas Malebranche. « Ne savez-vous pas que cela ne sent point ?» Pourquoi cette position catholique, chrétienne, catholique surtout? La souffrance étant une conséquence du péché originel, seuls les hommes peuvent en éprouver. De deux choses l'une, en effet, pour cette logique théologique, pour cette justification de Dieu, cette théodicée. Ou bien l'on reconnaît que les animaux pâtissent, et en bonne orthodoxie, il faut qu'ils aient péché, sans quoi Dieu n'est pas juste. Et cette thèse apparaît comme absurde. Ou bien l'on reconnaît l'origine à la fois humaine et diabolique de la faute originelle, et l'on doit en déduire que les animaux n'ayant pas pris part à cette faute ne sauraient, sans injustice divine, souffrir. Et, en conséquence, il ne souffre pas. C'est bien cette alternative dénégatrice que Voltaire récuse, trop satisfait d'évoquer, à l'encontre de la cruauté cléricale, les palpitations sanglantes et les cris des animaux soumis à la violence quotidienne de l'abattage, du travail et des jeux. Je ne voudrais cependant pas, dans cette évocation trop rapide, oublier que de nos jours, le père Michel Damien, l'essayiste Jean Bastère, le théologien peu en odeur de sainteté Eugen Drevermann, et même certains évêques de l'Église de France ont pris des positions courageuses en affirmant que les animaux étaient à la fois innocents et victimes et qu'on ne devait pas jouer avec leur sensibilité. Cinquièmement, je voudrais, après ce tour d'horizon qui a permis de mieux dégager les différentes orientations et donc les responsabilités théoriques, proposer une classification qui tienne compte de catégories, à mon sens, irréductibles et qui, par conséquent, vont susciter des analyses et des jugements chaque fois spécifiques. La forme de cruauté à laquelle nous pensons tous d'emblée, c'est la cruauté pure du faire ou du laisser souffrir pour le plaisir, exercice d'une toute-puissance sur un être sensible et entièrement livré aux caprices d'une subjectivité, jouissance psychique. Schadenfreude, qui est sans doute propre à l'homme. On a nommé sadisme ce penchant destructeur qui tend moins à faire mourir qu'à faire souffrir le plus longtemps possible. Freud le tient pour un avatar de la pulsion de mort en tant que celle-ci, originairement dirigée vers le sujet lui-même, est dirigée et dérivée vers l'extérieur. Il ne m'appartient pas de parler de ce type de cruauté sans haine qui oscille entre la perversion d'ordre pathologique et la perversité d'ordre moral. Qu'il suffise de remarquer que les enfants sont souvent extrêmement cruels. Innocemment, dira-t-on, mais à tort, car la manière dont le chat joue avec la souris n'a rien à voir avec le début de représentation de ce qu'éprouve l'autre et que possèdent à leurs différents âges la plupart des enfants que nous connaissons. Cette cruauté enfantine à l'égard des animaux ou d'enfants plus faibles est une si douloureuse énigme pour une philosophie qui se veut libérée de la croyance à la faute originelle qu'un philosophe matérialiste du XVIIIe siècle, Helvétius, en avouait son profond trouble. Je cite « On voit des enfants enduire de cire chaude des hannetons, des cerfs-volants, les habiller en soldats et prolonger ainsi leur mort pendant 2 ou 3 mois. » Sixièmement, mais peut-être ne s'appesantit-on sur le mystère de la méchanceté que parce qu'on refuse de voir que la cruauté envers les bêtes est en réalité la chose du monde la plus banale. Cette violence ordinaire, quotidienne, légale, des atrocités non passibles de sanctions. Nous les tuons avec plus ou moins d'égard pour les manger. Nous les supplicions pour, par exemple, nous régaler de la cirrhose de leur foie. Nous les torturons pour que nos fourrures soient plus belles et nos parfums plus capiteux. Nous les traitons comme des matières premières. Et c'est alors que le concept de cruauté inutile peut-être prend sens. Car enfin, il faut tenir pour de la cruauté utilitaire, commercialement, mais inutile socialement, les tortures que, pour notre confort, pour le luxe, pour un bien-être non nécessaire et en fin de compte pour le profit de quelques-uns, nous infligeons aux animaux. Vous constatez que je n'insiste pas sur la question de la viande. C'est parce que beaucoup pensent que l'alimentation carnée est indispensable à l'homme et que, sur ce genre de questions, il me semble qu'il convient de ne pas négliger un minimum de consensus. Il reste que ce minimum-là n'est pas rien et que certains auteurs, Rousseau par exemple, ont associé la cruauté humaine à l'alimentation carnée. Florence Burga, auteur d'un beau livre de philosophie, Animal, mon prochain, a su montrer quel oubli de l'animal impliquait les métiers et les usages de la viande. Au chapitre de la banalité du mal, il faut aussi faire figurer l'expérimentation sur les animaux, sévice sans aucun doute nécessaire, puisque les méthodes alternatives, les cultures de cellules par exemple, ne suffisent aucunement, au dire des médecins et des chercheurs, à faire progresser les thérapeutiques, et que le prérequis de l'expérimentation animale est indispensable. Mais là encore, le critère de la souffrance utile est pertinent. Les chercheurs savent-ils économiser les vies et les morts animales ? Acceptent-ils de diminuer l'angoisse et la douleur de ces victimes absolues, immolées et torturées dans les modernes sacrifices, ceux du laboratoire ? Encore faut-il souligner que, comme l'expliquait Claude Bernard, les animaux de laboratoire sont si peu traités comme des choses que c'est justement en raison de leur vertigineuse proximité avec les hommes et du matériau précieux que représente la palpitation de leur vie qu'ils sont condamnés à des mutilations, à des maladies expérimentales. Cette cruauté-là a bien quelque chose d'ordinaire, dans la mesure où, comme dans le cas où il faut faire tuer pour manger, et sous prétexte que personne n'a d'intention méchante, il est rarement question de prendre conscience de l'énormité du droit qu'on s'arroge, de savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Car aujourd'hui, ce n'est pas la mort qui constitue pour l'animal l'atteinte la plus atroce, mais bien son pauvre corps, sa pauvre vie, emmurée dans l'abstraction terrifiante de l'animalerie, de la salle d'expérimentation ou dans l'espace concentrationnaire de l'élevage en batterie. Il y a là une amnésie constitutive de la réalité qui est celle de nos pratiques ordinaires. Et la cruauté dont il s'agit dès lors porte un nom tout simple, l'indifférence. Nous ne sommes pas sanguinaires et sadiques. Nous sommes indifférents, passifs, blasés, détachés, insouciants, blindés, vaguement complices, pleins de bonne conscience humaniste et rendus tels par la collusion du rationalisme, de la tradition catholique, de la technoscience et de l'horreur économique. Encore une fois, le fait de ne pas savoir ce que d'autres font pour nous, de ne pas être informé, loin de constituer une excuse, accable ces êtres doués de conscience, de remémoration, d'imagination et de responsabilité que nous prétendons être. J'ajouterai, avec précaution, car j'en connais d'écologiques qui tentent l'impossible, j'ajouterai que la persistance des zoos pousse cette indifférence jusqu'au paradoxe, puisqu'en l'occurrence, c'est sous couvert d'attention éclairée et de pédagogie qu'on enferme, avilie, dénature et mutile des animaux venus d'ailleurs. Un très beau livre est récemment paru sur cette question, L'histoire du zoo, dont les auteurs sont Éric Baratet et Elisabeth Ardouin, paru à La Découverte. Septièmement, le chapitre sans doute le plus difficile à traiter concerne la troisième catégorie que j'appellerais la cruauté tragique, celle des sacrifices qui ont marqué les religions antiques, la grecque et l'hébraïque, pour ne citer que les traditions qui ont marqué notre culture. Mais cette catégorie du tragique ne comprend pas seulement des actes, des gestes qui ont eu temps et lieu dans le séjour sacré du rite. Elle inclut aussi des faits et gestes qui semblent avoir pris le relais et se produisent désormais parfois dans l'espace clos du théâtre, de l'opéra, voire du cirque. On sait que le mot tragédie vient de tragos, qui signifie bouc, que l'origine de la tragédie se trouve dans l'immolation de cet animal, et que le genre théâtral qui porte ce nom dérive du sacrifice, dont il constitue en quelque sorte la sublimation, ou peut-être la dégradation. Le dionysiaque devenant apollinien, pour reprendre une distinction dont Nietzsche sut faire un usage fécond. Une pièce comme l'Ajax de Sophocle représente l'intersection de ces deux moments. Ajax, égaré par son ressentiment contre Achille et rendu fou par Athéna, massacre des troupeaux, prenant les bêtes domestiques pour des hommes. Il croit massacrer des hommes, mais il massacre des troupeaux. Quand il sort de son délire et quand il prend conscience de son fourvoiement, il se suicide. On participe donc à des actions ou à des spectacles cruels, comme c'est le cas encore avec les Bacchantes, mythe dont Euripide a fait une tragédie, donnant à voir et à entendre ces femmes devenues momentanément folles, qui poursuivent dans la forêt des animaux et même leurs propres enfants, les déchiquetant et les mangeant tout crus. Nous sommes ici confrontés à la plénitude du sens étymologique que j'évoquais en commençant, le sang, le manger cru, la crudelitas. La reconnaissance d'une cruauté incontestable, mais rendue peut-être licite par la conscience que les participants ont de la transgression, par la communauté que l'événement crée entre eux, et par le caractère symbolique que revêt la tradition, ne doit pas empêcher une extrême vigilance vis-à-vis des spectacles ou des cérémonies qui prétendraient à la fois répéter et innover en la matière. Le mythe raconte comment agissent et pâtissent cruellement des êtres plus ou moins divins, et de ces récits, des dramaturges comme Sophocle et Euripide font des tragédies, suscitant, selon le mot d'Aristote, la terreur et la pitié. S'inaugure ainsi, dans une histoire à la fois religieuse et esthétique, un jeu incessant entre des rituels nouveaux et les mythes fondateurs, lesquels continuent d'éclairer de leur aura les reproductions ou représentations de gestes cruels, sacrifices, meurtres, suicides. Je ne peux pas ici évoquer le rôle que la musique joue, peut jouer et joue dans ces répétitions et représentations de spectacles tragiques. Mais la cruauté tragique dont je viens de parler ne saurait fournir une justification à certaines dérives mercantiles et obscènes dont on peut trouver un exemple chez un certain Hermann Nietzsche. C'est une homonymie, mais seulement phonétique. Je ne sais pas si le malheureux s'appelle vraiment comme ça, et si ça lui est monté à la tête, ou s'il a changé de nom et a adopté ce N-I-T-S-C-H. Mais il est sûr que l'homonymie phonétique est plus que gênante. Cet Hermann Nietzsche, artiste viennois, reçoit depuis 30 ans chaque année, pendant 6 jours dans son château, des invités qu'il fait payer fort cher pour participer à ce qu'il appelle le théâtre du sang. Des taureaux, des porcs, des moutons sont abattus, crucifiés, éventrés. Les adeptes sont aspergés puis abreuvés de sang. Leurs visages sont recouverts par les viscères chauds. Puis on foule longuement le sang qui, mélangé à du raisin, servira, un peu plus tard, à peindre l'étoile du Nietzsche en question. On n'est plus du tout ici dans la filiation tragique de la cruauté. On a affaire à une initiative marginale. Les invités payants de cette mascarade sanglante ne forment pas une communauté réunie par la répétition d'une célébration ou d'une représentation. Ils ne connaissent que la solitude partagée du tortionnaire. Cependant, la question demeure. Elle concerne par exemple la corrida, la chasse à cour, les combats de coq, tous ces jeux cruels, inutiles, auxquels leur ancienneté peut, selon le législateur, donner un certain droit de cité. Un être sensible ne peut que les condamner, mais que répondre à ceux qui s'opposent à leur interdiction en arguant de la richesse symbolique et communautaire dont ils sont porteurs et de l'appauvrissement culturel qu'entraînerait leur disparition. Le débat ne manque pas d'arguments dans un camp et dans l'autre. La seule chose que je puisse dire sans hésitation, c'est que les pratiquants de cette cruauté tragique ne dissimulent pas, du moins, leur plaisir de faire souffrir et de tuer. Aussi, ne faudrait-il pas que l'indignation contre ces exactions spectaculaires et cyniques étouffe la juste dénonciation de l'hypocrisie qui caractérise les civils ordinaires, banals et bien plus atroces, ceux qui touchent aux conditions de la vie et non pas seulement au moment de l'agonie et de la mort. Quant à la chasse et la pêche, elles rentrent, me semble-t-il, dans cette catégorie de la cruauté inutile, festive, mais traditionnelle. Et il importe, tout en limitant ces activités autant qu'il est possible, de préférer encore une fois la mort qu'elles infligent à la vie que réserve aux animaux l'industrie agroalimentaire. Il m'apparaît cependant qu'en ce qui concerne les bêtes sauvages, la culture coloniale ayant fait long feu, aucune tradition occidentale ne justifie qu'on les traque et qu'on les chasse. Le safari ne relève pas de la cruauté tragique, mais de l'industrie touristique. Huitièmement, on oppose souvent la pitié subjective, impuissante, particulière, et le droit objectif, universel, efficace. Pourtant, il y a deux moments de notre histoire qui aident à comprendre que cette opposition entre le sentiment et le droit manque de fondement et que la pitié et la protection légale ne peuvent que s'accorder pour le plus grand bien des animaux. Le premier de ce moment se situe dans la seconde moitié du XIXe siècle. Victor Hugo, Michelet, Pierre Larousse, un peu plus tard Clémenceau, Victor Schœlcher, socialiste qui fit abolir l'esclavage et lutta contre la peine de mort, ont, par républicanisme, défendu avec acharnement contre la droite catholique et conservatrice le droit des animaux à ne pas souffrir pour rien. Est-ce que ceux qui, aujourd'hui, mettent leurs pas dans les traces de ces écrivains progressistes doivent œuvrer dans le sens d'un droit des animaux, ce qui est possible au dire de mains juristes, mais pose le problème difficilement soluble d'une législation différentielle, de droit propre à chaque espèce, ou bien suffirait-il de constituer un certain nombre d'espèces en patrimoine de l'humanité? Si je penche plutôt pour le premier système de protection, c'est que la notion de cruauté, dès lors qu'on accepte d'employer ce terme, implique nécessairement que l'individu, oui, l'individu animal, son stress, sa douleur, sa conscience, son histoire, sa valeur intrinsèque, et pas seulement le spécimen, donc l'espèce, que l'individu animal soit pris en compte. On ne se conduit pas cruellement avec une espèce ou avec une race, mais seulement avec tel ou tel vivant, chaque fois unique. Je vous avais dit qu'il me semblait y avoir deux moments où l'on comprend que le sentiment de pitié, le sentiment de compassion et l'émergence d'un droit peuvent se rencontrer et s'accorder. Le premier de ces moments était le XIXe siècle français. Le deuxième de ces moments, et c'est ma neuvième partie et ma dernière, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu là une rencontre, une concordance entre l'exigence de droit et la pitié, et elle s'est exprimée chez des écrivains survivants du génocide qui étaient obsédés par notre cruauté envers les animaux. J'ai mis en exergue de cette conférence un texte de Canetti. Je cite maintenant de nouveau Adorno et Horkheimer pour répondre une fois de plus à l'objection de ceux qui disent que se préoccuper de la douleur animale, c'est se désintéresser des hommes et en particulier ne pas veiller ne pas veiller à ce que le racisme ne se manifeste pas. Voilà ce texte qu'ils ont écrit en 1940, en exil, dans un livre qui a pour titre « La dialectique de la raison ». À la base de l'intérêt que les fascistes, on va remplacer, si vous voulez bien, par les nazis, à la base de l'intérêt, parce que c'est bien de cela qu'ils parlent, à la base de l'intérêt que les nazis manifestent pour les animaux, la nature et les enfants, il y a leur volonté de persécution. La main qui caresse négligemment les cheveux d'un enfant ou la fourrure d'un animal signifie que cette main peut détruire. Elle flatte affectueusement l'une des victimes avant d'abattre l'autre. Et son choix n'a rien à voir avec la culpabilité de celle-ci. Cette caresse a pour but de démontrer que tous sont égaux devant le pouvoir, qu'ils n'ont aucune essence, aucune nature spécifique. Adorno, un peu plus tard, ira beaucoup plus loin encore dans le rapprochement entre la douleur et l'angoisse humaine avec la douleur et la souffrance animale. La douleur et l'angoisse animale. Et c'est sur cette citation d'Adorno que je souhaite conclure. L'éventualité des pogroms est chose décidée au moment où le regard d'un animal blessé à mort rencontre un homme. L'obstination avec laquelle celui-ci repousse ce regard, ce n'est qu'un animal, réapparaît irrésistiblement dans les cruautés commises sur les hommes, dont les auteurs doivent constamment se confirmer à eux-mêmes que ce n'est qu'un animal, car même devant un animal, ils ne pouvaient pas le croire entièrement.
Moi, je trouve ça très étrange de faire un débat là-dessus en disant pas de militantisme, parce qu'à part dire des choses bien pensantes sur le malheur des animaux, je vois pas trop comment on peut avancer si on rejette absolument tout militantisme de cette question, quoi. Et d'autre part, je suis étonnée d'entendre ce que vous dites sur l'antispécisme et l'antihumanisme, puisque vous avez conclu vous-même votre conférence en disant que défendre les animaux, c'était pas du tout ne pas défendre l'homme, et qu'on ne pouvait pas accuser les gens qui voulaient une égalité animale de ne pas veiller au racisme, etc., quoi.
Écoutez, moi je suis professeur de philosophie. Voilà, j'écris des choses qui sont plutôt liées à la philosophie. Mon activité est une activité théorique. Par ailleurs, je suis militante. Vous comprendrez que je ne vous avoue pas en public quelles sont les organisations dans lesquelles je milite.
Ben non,
c'est pas ça que vous me demandez. Je milite dans des organisations pour les animaux, mais aussi pour d'autres causes, pas seulement pour les animaux. Et je considère que, si vous voulez, le militantisme doit être mis un petit peu en dehors du coup, là, ce soir, ici, parce que j'ai essayé de faire un exposé de réflexion, et que réfléchir, c'est déjà une action. Déjà que Yves Michaud m'est invité à faire cette conférence est un événement remarquable.
Oui,
cet événement a eu lieu parce que j'ai fait paraître un livre qui s'appelle « Le silence des bêtes » et qui a été lu. Et il a fait beaucoup, et j'ai fait beaucoup déjà pour la cause animale par ses gestes théoriques. Alors, vous ne pouvez pas, me tourmenter trop sur le fait que mes positions ne sont pas radicales. Je suis plutôt une femme de consensus. Vous avez entendu, quand j'ai parlé de la viande, je trouve que ce serait mieux de ne pas en manger. Ce serait mieux, moralement, de ne pas en manger. Bon, j'en mange sans aucun plaisir, parce que ça fonctionne comme ça dans notre pays. Mais je ne souhaite pas prendre des positions offensives sur la question de la viande, parce que j'essaie de trouver des points de consensus. Et si déjà on pouvait diminuer la douleur animale quand elle est vraiment radicalement inutile, comme dans le cas de la confection de certains parfums, par exemple, ce serait déjà bien. Voilà, je suis dans un petit peu dans le consensus. Pas mou.
Alors, attendez, juste avant que la question, je voudrais vraiment rappeler qu'aujourd'hui, on est là pour une conférence qui nous apprend un certain nombre de choses. Il y a sans doute un lieu pour le militantisme, pour le débat militant. Je ne pense pas que l'Université de tous les savoirs soit ce lieu-là. Donc je pense que ça serait bien de pouvoir faire avancer un débat différemment. Non pas qu'on condamne forcément tout militantisme, mais là vraiment nous souhaitons faire avancer le débat un petit peu différemment. Donc j'aimerais que les questions reviennent quand même à des choses un peu plus de réflexion et de théorie.
Enfin, je voudrais que les militants qui sont là, et que je m'attendais à trouver là, soient conscients de la chose extraordinaire. Mais elle n'est pas simplement due à moi, elle est due à une convergence de travaux qui sont parus en même temps. Tous ces travaux que j'ai cités, Éric Baratet, Elisabeth Ardouin, Florence Burga, un certain nombre de travaux paraissent sur cette question depuis quelques années, et je trouve que c'est un événement extraordinaire, un changement de mentalité extraordinaire, que Yves Michaud ait décidé, et les gens qui travaillent avec lui aient décidé qu'une conférence sur la cruauté envers les animaux aurait lieu dans le cadre de l'Université de tous les savoirs.
Je suis très heureux que dans l'histoire des idées, ce débat-là et ce questionnement-là et ce niveau de réflexion-là puissent être atteints. Et je disais que moi, je milite dans la protection animale depuis les années 60, y compris en ayant passé à tort ou à raison par des comportements militants que je n'aurais plus nécessairement aujourd'hui, ou que je ne regrette pas d'avoir eu, qu'on ait en France et dans un lieu comme celui-ci, une réflexion comme celle-là, et que cette réflexion puisse avancer encore plus sur la relation entre le fonctionnement de notre société, le monde économique, l'intérêt individuel et collectif qu'on puisse avoir pour les animaux. Et je trouve ça très bien. Et je pense que c'est l'histoire des idées qui fera avancer l'histoire de la protection animale.
Je ne sais pas si c'est une question, c'est une petite série de questions.
Allez-y.
Alors, je vais commencer par le début. Au début de votre...
Parlez un peu plus fort.
Comme ça. Un peu plus. Au début de votre conférence, vous avez expliqué, c'était la thèse numéro 2, que la cruauté envers les bêtes est un cas particulier de cruauté. Je voudrais partir de cette affirmation et donc commencer par vous demander, c'est ma première question, ce qu'il ne faudrait pas dire au contraire, ne serait-ce que comme hypothèse pour voir ce qu'elle donne théoriquement et pratiquement, que la cruauté envers les bêtes est la possibilité de toute cruauté, et donc et non pas un cas particulier, et que dans ce cas-là, toute cruauté, c'est donc toujours la première question, n'est-elle pas une cruauté envers une bête ou envers un vivant? Donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il ne faut pas renverser et radicaliser cette question-là, cette première question, évidemment, je vais la tempérer, parce que pour moi, elle est compliquée, c'est pas si simple. Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, la possibilité de la cruauté n'est-elle pas l'irréductible de la vie même? Alors vous avez parlé, vous avez fait allusion très très justement et de manière très intéressante à Freud et au fait que chez Freud, la pulsion de destruction, de cruauté est un avatar de la pulsion de mort, qui est elle-même peut-être... Un effet ou un dérivé de la pulsion de vie. Donc ma question, la possibilité de la cruauté n'est-elle pas un mode de la pulsion de vie? C'est-à-dire, n'est-elle pas irréductible?
Un mode de la quoi?
Pulsion de vie. N'est-elle pas irréductible à la vie? Troisième question, donc il en reste une quatrième, qui va revenir sur la première, mais sur la cruauté psychique. Vous avez distingué une cruauté sanglante et une cruauté non sanglante ou froide, notamment quand vous avez parlé du rationalisme. La cruauté psychique, plaisir pris à faire souffrir et à se faire souffrir, c'est une cruauté froide. Bon, question impossible, quelle est la pire, de la sanglante ou de la froide? Autre question, est-ce qu'on peut séparer le plaisir pris à faire souffrir l'autre et le plaisir, entre guillemets, à se faire souffrir? Autre manière de vous demander, c'est donc la fin de ma troisième question, la cruauté n'est-elle pas l'utile propre de la psyché? Est-ce que notre psyché, notre esprit, ne fonctionne pas à ça, justement, à la cruauté? Et alors, quatrième et dernière question, qui revient sur la première, donc qui la questionne. vous avez parlé à propos de la cruauté envers les bêtes de matières premières. Et j'ai évidemment tout de suite pensé à l'extermination des Juifs que les nazis ont traité dans une extermination industrielle, dans une production industrielle de cadavres comme des matières premières. Les animaux sont utilisés, instrumentalisés, mais s'agit-il, eux, de les faire souffrir pour les faire souffrir, comme c'était le cas des Juifs ? J'ai longtemps, notamment en vous lisant, j'ai trouvé toujours très passionnante la proximité que vous accordiez à la cruauté envers les bêtes et à la cruauté envers les Juifs. Je me souviens d'un article que vous aviez écrit il y a longtemps dans le Messager européen où vous disiez, vous remarquiez plutôt, sans vous risquer, que les camions qui emmenaient les Juifs dans les camps d'extermination polonais prenaient les mêmes chemins, ou plutôt les trains qui emmenaient les animaux à l'abattoir pour les fast-food européens prenaient les chemins inverses de ceux qui avaient emporté les Juifs dans les camps d'extermination en Europe orientale. Peut-on remplacer, substituer la matière première que les animaux sont pour nous les hommes ? Notre cruauté tient-elle dans le fait que nous les faisons souffrir, donc dans le sang versé, ou plutôt dans la manière dont nous les faisons souffrir ? Négligence, indifférence, oubli, insensibilité, manière froide et exsangue. Voilà mes questions maladroites.
Merci beaucoup.
Je vais commencer par la fin, et puis on va remonter, vous me rappellerez un petit peu les autres points. Ce n'est pas moi qui ai inventé de comparer le sort réservé aux Juifs avec les trains, etc., et le sort des animaux. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dans la conférence, tous les écrivains et philosophes juifs d'après la plupart des écrivains et philosophes juifs d'après l'extermination ont été obsédés par la douleur des bêtes. Du reste, si ça vous intéresse, je vous lirai un texte absolument stupéfiant de Strangel, qui était le chef du camp de Treblinka. Quels sont les auteurs qui ont parlé de cette chose-là, les auteurs dont je parle ? Eh bien, Isaac Bashevis Singer, Vassili Grossman, Romain Gary en France, Elias Canetti, je vous l'ai cité, et puis Adorno et Horkheimer, les philosophes, et bien d'autres encore. Vous m'avez ensuite... Matière première. Vous savez, il y a une question que je me suis souvent posée et je me demande si je n'aurais pas dû bâtir tout mon exposé comme ça, mais c'était peut-être un petit peu scabreux. Je ne pense pas que les nazis étaient cruels. Enfin, certains l'ont été, certainement, en Russie, en Pologne. Mais dans les camps d'extermination, je ne crois pas que c'était le problème de la cruauté. Et je suis très, au fond, ça irait tout à fait dans le sens de la banalité, de ce que j'ai appelé la banalité de la cruauté. Quand on met en œuvre une telle administration, une telle technique, on n'est plus dans le registre de la cruauté, qui est un petit peu un registre de l'improvisation, quand même. On pourrait se permettre de dire ce serait démenti par certaines scènes qui ont été racontées au procès Barbie, bien entendu. Mais dans son essence, le nazisme, tel qu'il s'est exprimé par la pratique des chambres à gaz, dans son essence, le nazisme n'est pas cruel. Au fond, tant qu'on est cruel, ça, on est encore dans un certain registre presque rassurant. Presque rassurant. Alors, quand vous parlez du plaisir qui ne peut pas se dissocier de la cruauté, je crois que c'est peut-être un petit peu une parole d'homme, enfin, je n'aurais pas trop me lancer là-dessus. Quand vous dites que peut-être que la cruauté est l'expression de l'instinct de vie et pas de l'instinct de mort, là vous êtes dans un registre psychologique entre guillemets, dans un registre psychanalytique qui ne peut pas être le mien parce que je n'ai pas de compétences à ce sujet et dont j'avais dit que je ne le traitais pas au départ de mon au début de mon exposé. En ce qui concerne alors ça, je voudrais vous réentendre le dire, qu'est-ce que vous avez dit au début. Il me semble que la cruauté envers les bêtes est qu'est-ce que vous avez dit de toute cruauté? Et le modèle, le préalable?
La possibilité.
La possibilité, oui, de toute cruauté. Il y aurait donc une sorte de caractère transcendantal de la cruauté envers les bêtes. C'est une thèse que je trouve tout à fait intéressante. Mais, si vous voulez, elle est dangereuse, parce que... Alors, vous avez bien compris dans mon exposé que je me rangeais du côté de ceux qui considèrent que la cruauté envers les bêtes n'est pas du tout à part. J'ai critiqué ce point de vue-là. Et je me suis rangé à un point de vue qui consiste à dire que la cruauté envers les bêtes et la cruauté envers les hommes, comme un certain nombre d'auteurs le disent, sont de même nature. Maintenant, aller jusqu'à dire, comme vous le dites, que la cruauté envers les bêtes est la condition de possibilité de toute cruauté, c'est une thèse qui ne me serait pas étrangère, mais qu'il faudrait regarder à deux fois avant de la proposer, parce qu'elle est très radicale. Très radicale.
Vous avez fait, c'est bon. Vous m'avez surpris dans votre arrêt. Non. Bah écoutez, Elisabeth de Fontenay, je vous remercie.